partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Lingodoc, Radio Pays d'Hérault, Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne, présentée par Marion Thibat.
J'aime.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Deuxième rendez-vous de Toutoui avec aujourd'hui Mohamed El-Khatib, auteur, metteur en scène, et avec l'interprète du spectacle programmé ici en ce moment, moi, Corinne Dada, ce mercredi 12 décembre à 20h. Mohamed El-Khatib ou l'art du réel, ce que vous cherchez à mettre en scène, et d'ailleurs c'est pas si facile, c'est un réel partageable, il s'agit évidemment pas du tout d'un réel nombriliste. Et comme vous êtes artiste associé ici à Narbonne, eh bien les auditeurs au doigt peuvent suivre votre parcours depuis 3 ans. Il y a eu d'abord Finir en beauté sur la mort de votre mère. Il y a eu C'est la vie sur la perte d'un enfant, avec sur scène 2 comédiens qui ont vraiment perdu un enfant dans la vraie vie. Et il y a maintenant moi, Corinne Dada, avec la vraie Corinne Dada, en chair et en os avec nous aujourd'hui. Vous jouez sur scène votre vrai métier de femme de ménage. Alors Mohamed El-Khatib, l'art du réel, c'est quand même un équilibre instable, c'est pas évident.
Eh bien, à la fois, c'est pas évident et en même temps...
C'est un défi et un risque. Et
en même temps, c'est assez simple, c'est-à-dire d'être aux prises avec son quotidien, d'être aux prises avec la société, avec ce qui nous entoure, et faire avec, le plus simplement possible, avec son environnement proche. Et ça demande, et c'est vrai que ça demande une espèce de lâcher prise. Et en même temps, simplement d'être disponible, essayer de capter la vie comme elle est. Quoi.
Mais ça veut dire que pour vous, le réel est vraiment une source d'inspiration artistique.
C'est pire
parce que
ce
n'est pas le réel comme ça que vous mettez sur la scène d'un théâtre, évidemment.
Non, c'est-à-dire que c'est pire que ça, ce n'est pas une source d'inspiration, c'est-à-dire que je n'en vois pas d'autre. Et que ce qui se passe dans la vie est tellement fort, tellement parfois ou douloureux ou merveilleux, que je ne vois pas l'intérêt d'aller fouiller ailleurs. Et donc j'essaye de restituer, tant bien que mal, la réalité qui m'est donnée. Mmh. Et le pari que je fais, qui est risqué effectivement, parce que ça ne marche pas à tous les coups d'ailleurs, c'est de se dire comment je peux être à l'affût, disponible pour capter ces moments de réel et essayer de les transposer, de les partager au théâtre. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est toujours extrêmement fragile, mais en même temps, c'est cette prise de risque, enfin, ce désir de fragilité qui m'intéresse. Sinon, on ferait des produits standardisés et on s'ennuierait.
Mmh. Alors comment ça s'est passé pour ce spectacle en particulier, moi, Corinne Dada? Tout part d'une rencontre. Oui. Vous rencontrez Corinne dans un lycée à Bourges, elle est femme de ménage.
Oui, et puis d'abord, elle fait la tête.
Elle vous dit pas bonjour.
Elle me répond pas, ouais, elle me dit pas bonjour. Et puis on finit par sympathiser. Et puis elle se moque même un peu de moi. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec mes gros sabots d'auteur, de théâtre, de metteur en scène, etc. Et puis elle me remet à ma place assez vite. Et puis, ça crée une complicité. Et je peux le dire, on s'est plus quitté depuis, ça fait 8 ans maintenant, depuis 2010.
Vous avez des surprises?
Non. T'as pas dit oui tout de suite, hein, en même temps.
Ouais, un petit peu, j'ai un petit quai quand
peu
même.
Méfiante,
parce que,
ouais.
Je me méfie du spectacle vivant, quoi.
Vous allez au théâtre?
Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je travaille trop, moi. Et avec les horaires que j'ai, c'est pas évident. Il y a pas beaucoup de pièces, hein, chez nous, à Bourges. Il y a des beaux théâtres, on a un beau.
Enfin, cela dit, maintenant, tu y vas un peu, quand on va dans les festivals, etc. C'était aussi un des paris de ce travail-là, c'est de se dire, bon... Corinne, elle me dit qu'elle ne va pas au théâtre. Eh bien, on va l'emmener au théâtre, mais passons par la scène. Et du coup, elle a visité plus d'une centaine de théâtres en France et à l'étranger, donc elle a fini par aller au théâtre.
Oui.
Alors, il y a un processus de travail qui s'instaure, parce qu'elle n'est pas seule sur scène, Corinne.
Effectivement, parce que je l'ai suivie pendant un long moment à Bourges. On se voyait de façon suivie. Et je la voyais faire son travail. Et il y a quelque chose qui m'est apparu de l'ordre de la danse. C'est-à-dire qu'il y avait une poétique de sa gestuelle qu'elle répétait. Et dans le fond, je me disais, ah, mais on peut comparer ça à un travail de danseuse. Elle a une espèce de technicité, simplement. Et un peu comme les danseurs, d'ailleurs, qui ont des mouvements, mais dont ils varient la fréquence, l'amplitude, etc. Et je retrouvais ça chez Corinne, c'était un vrai ballet. Je me suis dit, mais le sujet est là. C'est-à-dire qu'au-delà de la femme de ménage, il y a la question du corps au travail. Du corps qui est son instrument de travail, puisqu'elle disait même, moi, mon diplôme, c'est mon corps. Et je me suis dit, bah tiens, moi qui évolue dans le champ du spectacle vivant, il y a d'autres personnes qui disent ça, ce sont les danseurs notamment. dont le corps est l'instrument, et l'instrument qui est la plupart du temps maltraité. Et je trouvais intéressant de voir ces corps ouvriers au travail, c'est pour ça qu'on a invité une danseuse à nous rejoindre pour la proposition. Mmh.
Vous aimez bien aussi montrer ce qui en général ne se montre pas sur scène, ce qu'on appelle entre guillemets les invisibles, les non-comédiens.
C'est-à-dire que si le théâtre, pour moi, a une utilité, c'est celle-là, c'est de se dire, de regarder là où on ne veut pas regarder ou là où on n'a pas l'habitude de regarder. Et donc, il y a un certain nombre de catégories de la population, qu'on appelle les classes populaires, et d'ailleurs qui ont émergé de façon assez brutale là, dans le paysage avec les gilets jaunes. Et ça, ce sont des corps qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc il y avait cette volonté-là de tenter de faire du théâtre un espace de réconciliation pour les classes populaires, qui en sont un peu trop marginalisées. Et puis, effectivement, il y a des métiers comme ça, et notamment femmes de ménage, parce que j'y suis sensible pour des raisons intimes, mais aussi pour des raisons en même temps politiques, mais ça se rejoint.
Parce que votre mère était femme de ménage aussi.
Entre autres. Et de se dire, finalement, est-ce qu'il y a une parole qui peut émerger à cet endroit, et une parole qui se prive de porte-parole. C'est-à-dire, une parole de première main. Et c'est pour ça que j'ai un peu pris mes distances avec les acteurs, qui sont, dans le fond, des porte-parole, comme le sont beaucoup d'experts. Mais je me suis dit, tiens, ça serait intéressant qu'on entende la parole d'origine. Et d'ailleurs, c'est amusant, puisque quand j'ai commencé le spectacle avec Corinne, une des difficultés, c'était son emploi du temps avec son employeur. Elle ne pouvait pas se libérer autant. Et très vite, des gens m'ont dit, ah, mais moi, je connais des comédiennes qui pourraient jouer super bien la femme de ménage. Et dans le fond, ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que ça serait devenu un autre projet, un exercice de style. Et on se serait dit, à la fin du spectacle, ah, elle joue bien la femme de ménage. Or, ce n'est pas du tout l'enjeu. Et là, Corinne, elle n'est pas interchangeable, elle est irremplaçable.
Mohamed El-Khatib, c'est vous qui avez choisi cette chanson, c'est Annie El-Khatib. J'aurais pu croire que c'était quelqu'un de votre famille, pas du tout, du tout, c'est un musicien américain. Vous aimez bien créer un peu des choses trap comme ça, non? C'est une des formes de votre humour.
Oui, moi j'aurais bien aimé que ce soit mon frère, mon cousin, je trouve ça plutôt cocasse. Et puis l'idée m'est venue au moment des dernières présidentielles. Vous savez, il y avait François Fillon qui est tombé parce qu'il faisait travailler sa famille. Et je me disais, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je vais faire travailler ma famille. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est un petit clin d'œil politique aussi.
Voilà, c'est une des formes de votre humour. Bon, vous pratiquez aussi beaucoup l'autodérision. Vous avez bien sûr une approche poétique de la réalité. Et vous vous mettez souvent en scène. Alors, je pense au film qui vient de sortir, votre premier film, Renault 12, qui va être montré sur Arte. C'est une suite de Mourir en beauté et c'est projeté ici à Narbonne en avant-première après le Centre Pompidou, puisque en septembre, début septembre, Ça a été projeté au Centre Pompidou. Bon, alors, on peut dire que c'est une sorte de road movie assez rocambolesque, puisque vous allez du Loiret jusqu'à Tanger en R12 pour prendre possession de l'héritage familial.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là, il est là, il est là, il est là le bonheur, il est là. Waouh. R12. Bon pique-nique, hein. Pique-nique sur le capot d'une R12 sur une station essence. Elle est pas belle la vie. R12 quoi ?
C'est une R12.
Oh !
TS.
R12 TS. Avec en plus les jantes de Alpine. R5 Alpine.
Là, je pars à Tanger.
Là, tu vas à Tanger avec ça ?
Vous allez où ? Où c'est que vous allez avec ça ?
À Tanger.
Franchement, sartez, cousin. Je m'en sartez, quoi.
C'est magnifique.
Juste un extrait du film, parce que le R12 est un véritable personnage. Marion Fouillant-Bousquet, vous êtes la directrice de cette maison. Vous nous avez rejoint là, à cette table. Et il se trouve que ça tombe bien, puisque Mohamed El-Khatib est entre le théâtre et le cinéma maintenant. Et cette maison s'appelle désormais Théâtre plus Cinéma. C'est un artiste invité, mais plus qu'invité, il est associé à cette maison pendant 3 ans. Il y a 3 artistes associés. L'enjeu pour vous de ces artistes ?
On fait un bout de chemin ensemble avec Mohamed El-Khatib. C'est très simple en fait. Tout à l'heure, Mohamed a dit être en prise avec le quotidien. Et pour moi, directrice d'un théâtre et d'un cinéma, c'est peut-être être en prise avec l'artiste, être autant que possible capable de répondre à ses besoins. Et donc pouvoir répondre aux besoins d'une résidence, d'un temps de répétition, de mise en contact.
Et l'idée de soutenir un artiste, de participer au processus de création ?
Bien sûr, soutenir les projets en cours, ce qui aujourd'hui anime l'artiste à côté de moi, qui est en plein dans ce processus, et que depuis ici, depuis Narbonne, nous puissions contribuer, et c'est chaque fois différent. Et donc faire un bout de chemin comme ça, pour essayer que cette maison, elle soit quelque part dans l'histoire de création d'aujourd'hui. Et puis, c'est en même temps proposer aux spectateurs des parcours sur plusieurs saisons, ce qui est possible par cet accord que nous avons passé avec Mohamed, artiste associé. Bah, ça permet que des spectateurs y découvrent sur plusieurs années plusieurs facettes. Et plusieurs facettes d'un créateur qui, une année, arrive avec un spectacle très intime, l'année d'après arrive avec une forme sur un plus grand plateau, l'année d'après avec un film, et la prochaine fois, je ne sais pas.
On verra. Une revue musicale, je dis n'importe quoi. Mohamed El-Khatib, pour vous, l'enjeu d'être artiste associé, parce que non seulement vous êtes à Narbonne, mais vous êtes aussi artiste associé au Théâtre de la Ville, vous êtes aussi à Tours, même à Birmingham.
Tours, c'est terminé.
Hein, c'est terminé, mais enfin, vous êtes un peu partout.
Et Birmingham aussi. L'enjeu, c'est celui du temps. En fait, c'est ce qui est le plus précieux pour nous dans le travail, c'est la durée. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que souvent, on peut être programmé une fois, par-ci, par-là, etc. Et puis, c'est terminé. Et donc, on n'avait pas le temps de créer un lien avec des spectateurs.
Et avec un territoire ?
Avec un territoire, des spectateurs d'un territoire. Et là, ce qui est beau, c'est de retrouver... C'est quand même une espèce de rendez-vous amoureux. Et on revient. Et à chaque fois que je reviens ici, les gens me parlent des spectacles d'avant. Et donc, il y a un lien qui se crée, il y a une fidélité. Et ça permet d'aller de plus en plus loin avec la confiance, c'est-à-dire que l'année prochaine ou l'année d'après, je pourrais proposer n'importe quoi, je suis sûr qu'il y aurait un noyau de... Enfin, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais il y aurait un noyau de fidèles, et ça, c'est beau, ça n'a pas de prix, c'est-à-dire de pouvoir travailler comme ça dans la durée. C'est d'abord une marque de confiance, et c'est un peu comme l'amour d'une mère, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui vous porte à un moment donné, c'est de l'amour, c'est de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, je serai là pour toi. Et c'est assez beau, quoi, dans le champ artistique, d'avoir cette confiance-là. Et du coup, de pouvoir... Et puis, la particularité aussi de cette maison, c'est que, généralement, les choses sont cloisonnées. C'est-à-dire, c'est soit une pièce de théâtre, et puis, si je fais un film, il faut que j'aille dans un cinéma plus loin. Et que là, on peut tout faire dans la maison. Une installation plastique, et cette transversalité, sans que ça pose aucun problème. Au contraire, il y a une fluidité, et ça, c'est assez précieux.
Vous êtes à l'écoute de Toutoui, l'émission radio de Théâtre Plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne. À chacune de nos émissions cette année, on a décidé de vous faire découvrir un titre d'une chanteuse franco-américaine qui se produira ici le 26 mars prochain. C'est Rosemary Standley. Elle est accompagnée au violoncelle par Dom Landena.
I remember the promise that you made in the barn when the kittens were born and you could not keep warm. So you moved away the mountains that the sun rose behind. You said yourself a prayer and lay down with the blind. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child. And the vow of our compassion that you swore through your teeth when the war began to end and the photographs we. Nobody blames you as the train pulls away with its cargo full of snow of these German paperweights. You lost them in your freedom, you need him now you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child. Well, it's 5 in the morning and there's no one at home except for your wife and your child on the phone. Someone's got to listen to a promise or two. This room is far too small for a pilgrim like you. You lost him in your freedom, you need him now you're wild. Blessed it is the memory of everybody's child.
Rosemary Standley, la chanteuse du groupe Moriarty, qui sera donc ici sur scène en live le 26 mars. Aujourd'hui, notre émission, bien sûr, est consacrée à Mohamed El-Khatib. J'ai appelé ça l'art du réel. Et une des questions que vous posez, c'est, il me semble, comment faire du théâtre pour ceux qui n'y vont pas. Donc, on peut faire du théâtre avec ceux qui n'y vont pas. Vous avez d'ailleurs vécu une aventure assez folle avec 53 supporters, ou peut-être même plus, de Lens, qui s'appelait Stadium. Bon, c'était une véritable usine à gaz, ça, j'imagine. Mais en même temps, évidemment, on a dû vous reprocher régulièrement d'être dans une position un peu voyeuriste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous en fichez complètement ?
Ben, je réponds pas, c'est-à-dire que moi je vis des rencontres. Je les vis avec une certaine empathie, une sincérité. Et après, mon souci, c'est comment on peut partager ça avec un public. Et que parler de voyeurisme, ben, ça relève presque, c'est dire du mépris de classe en se disant que les gens qui participent à ces projets, d'une certaine façon, ce serait comme dire que leur consentement ne vaudrait rien, parce qu'ils sont issus des classes populaires, etc.
Qui peuvent être instrumentalisés.
Voilà, tout à fait. Or, l'instrumentalisation, elle est réciproque. Et puis, le terme de voyeurisme ne me pose pas de problème. C'est-à-dire que je ne fais pas de la télé-réalité, puisqu'il y a une coécriture, on travaille en complicité avec les gens, c'est un travail long. Et je suis très content qu'on voit des corps qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre, qu'on entende d'autres voix. Et c'est plutôt réjouissant, et puis que ça provoque du débat, c'est que ça vient déplacer quelque chose du théâtre qui est habituellement attendu.
Mmh. Corinne ?
Oui.
Vous ne vous sentez pas du tout instrumentalisée, j'imagine ?
Non.
Non, parce qu'on sent en plus de la part de Mohamed un très grand respect pour vous, ça c'est absolument évident quand on voit le film Renault 12.
Pourquoi ? Parce que vous m'avez vu dans Renault 12 ?
Mmh. Vous y êtes ?
Oui, je sais.
Mais on sent que Mohamed vous respecte infiniment.
Oui, ben, c'est bien. C'est comme si c'était mon fils, hein, Mohamed. Je ne le considère pas comme mon patron.
C'est ça qui est assez beau, je trouve, Corinne, c'est qu'elle vient de dire « je le considère comme mon fils ». Et l'avantage avec votre mère, bah, c'est que vous pouvez aussi la maltraiter. Et parce que c'est-à-dire que l'amour, il y a un contrat de confiance, quoi, l'amour est là.
Là aussi.
Donc on peut se dire les choses, on peut se dire aussi ce qui ne va pas.
Mais Corinne, quand même, vous continuez à être femme de ménage, vous prenez des
oui,
congés sans solde
bien sûr.
Pour aller sur les scènes.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience?
Bah déjà, ça me sort de mon quotidien, parce que moi, j'ai pas l'habitude de prendre le train, le métro,
d'aller à l'hôtel,
prendre l'avion, de dormir dans les hôtels, manger dans les restaurants, et ça me fait du bien. Ça me fait... J'oublie mes soucis, quoi, que j'ai à la maison et tout, voilà, ça, c'est une bouffée d'air que...
Parce que vous avez une vie de famille avec 4 enfants?
Ah oui, oui, il n'y en a plus qu'un à la maison. Maintenant, j'en ai récupéré une autre, samedi soir... un peu le bing-bing avec son mec, donc bon, elle est revenue à la maison avec son fils, donc maintenant on m'en fait deux, j'ai une maison toute petite, mais bon, je voulais pas l'acheter. Mais oui, j'ai 4 enfants, 4 super-enfants, dont un, le plus vieux, Caïs, qui habite à l'île de la Réunion.
Et vous allez aller
et
jouer
à l'île de la Réunion en février 2019. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à trouver des dates pendant les vacances scolaires à nous, donc du coup, j'y vais 3 semaines.
Et vous arrivez donc comme ça à reprendre votre vie, de votre vie normale, naturellement? Ça vous monte pas du tout à la tête?
Non, non. Mais au lycée, ils sont contents, quoi, voilà. Les profs, ils sont... Il y a des élèves qui ont réussi quand même à venir me voir. Mais les profs, ils sont contents, quoi. Par le directeur, il n'est jamais venu, lui.
La prochaine fois, peut-être.
Allô? Allô? Mohamed?
Le billet d'un spectateur fidèle, par ailleurs psychanalyste, Dominique Marin.
Oui, merci Marion de me donner l'occasion de pouvoir rencontrer pour la 3e fois donc Mohamed El Khatib. Je suis très heureux de pouvoir participer et contribuer à la renommée de ce dramaturge, de ce réalisateur que je trouve profondément passionnant. Je rejoins Marion ce que vous avez dit à propos de l'art du réel. Effectivement, c'est bien comme ça que je l'aurais également qualifié le projet artistique de Mohamed El Khatib. Ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est pas un réel brut que vous nous servez, c'est-à-dire que c'est quelque chose de profondément travaillé, parce qu'on a le sentiment à certains égards que ça pourrait être quelque chose de très spontané, qui est une captation de la réalité quotidienne. Or, il n'en est rien. Je vais prendre un petit exemple. C'est Renaud 12, justement, puisque c'est l'aboutissement, il me semble, d'une sorte de trilogie qui vient après finir en beauté, qui a commencé par un travail en 2010 où vous prenez des notes, vous filmez la maladie de votre maman, qui ensuite devient une pièce en un acte de décès. Et ensuite, 2 ans plus tard, c'est la pièce C'est la vie, où vous mettez en scène, ça a été évoqué tout à l'heure, des comédiens qui ont réellement perdu un enfant. Et ces éléments sont repris finalement dans le film Renaud 12 que nous avons la chance d'avoir vu hier à la scène nationale de Narbonne. Et c'est vraiment un travail d'écriture prolongée, soutenue, que vous nous proposez, qui reprend la disparition de la mère dans un documentaire à la fois direct, humoristique, poétique et fantaisiste aussi. Parce qu'en plus du personnage de la mère, vous l'avez évoqué Marion, il y a une intrigue autour de cette fameuse Renaud 12. Je crois que vous êtes un grand lecteur aussi de Roland Barthes, qui disait du langage qu'il est fasciste. Il est fasciste, le langage, parce qu'il ordonne effectivement des hiérarchies entre les individus, il commande nos façons de penser et même nos façons de ressentir, nos affects. Et avec vous, Mohamed El Khatib, on réapprend ou on redécouvre tout simplement qu'une fin de vie ne peut pas être vraiment dite belle. Qu'on peut blesser quelqu'un qui a perdu un enfant en lui disant « c'est la vie ». Et qu'être triste n'est pas forcément un symptôme ou un deuil pathologique. Voilà ce que j'aurais voulu dire pour inviter les auditeurs à lire vos spectacles s'ils ne peuvent pas se déplacer pour les voir, ou à voir ce film qui sera diffusé sur Arte. Merci.
Merci Dominique Marin. De la poésie, de l'humour et un regard décapant sur ceux qu'on appelle les invisibles, dont vous faites partie, Corinne Dada. Vous serez sur scène ce mercredi, ici, à Narbonne, à 20h, dans votre propre rôle de femme de ménage, et vous ne mâchez pas vos mots. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était Toutoui, un cycle d'émissions enregistrées au fil de la programmation de Théâtre plus Cinéma, scène nationale Grand Narbonne, en partenariat partenariat avec RCF, Grand Sud FM, Radio Marseillette, Radio Linguedoc et Radio Pays d'Hérault. La prochaine émission sera consacrée à Marion Lévy, une autre artiste associée à Narbonne. Elle est chorégraphe. L'émission est enregistrée le 9 janvier à 18h. Vous pouvez bien sûr venir y assister. D'ici là, ne ratez pas D'après une histoire vraie de Christian Rizzo, mardi 18 décembre à 20h. D'ici là, tenez-vous informés, restez tout ouïe. Merci à l'équipe, Jonathan Pia, Marie Closet.